C'est bien beau parler de déconfinement, on en jase en masse, puis on veut qu'il y en a, on respecte les consignes, mais on a hâte. Hein? Il reste encore certains secteurs, puis on veut du déconfinement. Encore faut-il commencer par donner l'exemple. Alors moi, je le dis à mes collègues depuis un bout, faut qu'on déconfine notre show aussi, là. On a été en émission spéciale pendant presque 2 mois, je pense que c'était nécessaire, j'ai pas de regrets, fallait en parler, vous aviez le goût d'en parler, mais là, faut reprendre ce que j'appelle nos bonnes vieilles habitudes. Remarque, ça date pas de 4-5 ans, là. Le show date d'à peu près, il y a à peu près juste un mois. Avant qu'on retombe en émission spéciale, mais on avait pris la résolution de jaser avec des gens qui sont connus à Québec, de différents milieux, mais pas nécessairement leur jaser de leur entreprise comme telle, là. C'est de ce qu'ils font professionnellement. Juste avoir un regard extérieur un peu sur la société. Alors, mon prochain invité, on avait commencé à y jaser, est un des propriétaires de Chocolat Favori. On peut parler de ça de temps en temps, mais c'est pas le sujet premier. Charles Auger, bonjour, comment ça va?
Salut Sylvain, ça va bien toi?
Yes! Comment t'as passé la pandémie? J'ai pas le choix, là. Je sais qu'on va parler de plein d'autres choses, mais de prendre des nouvelles un peu, on s'est pas reparlé depuis un bon bout. Comment ça a été?
Écoute, c'était bien. Écoute, la pandémie nous amène beaucoup de réflexions, beaucoup de recul avec tout ça. Puis je te dirais que actuellement, on est d'un mode où quand on se compare, on se console. C'est-à-dire qu'on trouve toujours des gens qui sont dans des pires situations. Il y a toujours des domaines pires que l'autre. Fait que pour nous, ça a été difficile, c'est sûr et certain. Mais je te dirais que l'homme, quand il a le gun sur la tête puis il est en instinct de survie, c'est surprenant des fois ce qu'on peut faire puis ce qu'on peut réaliser puis notre capacité d'adaptation, capacité qui est beaucoup moins présente, je te dirais, quand il n'y a pas cette urgence-là directement. Fait qu'on survit, mais non, ça va bien. Honnêtement, on est content jusqu'à là.
Mais tant mieux. Peut-être que je sais qu'il y en a plein qui ont sorti des idées pendant cette pandémie-là. Peut-être que dans 3-4 ans, ces idées-là ont été positives. Ils se diront peut-être, sais-tu que c'est à cause de la pandémie que j'ai pensé à ça? Ça m'a forcé un peu à me remettre en question, puis j'ai pensé à ça, puis regarde, 3-4 ans après, je me rends compte que ça m'a fait avancer. Ça va peut-être arriver.
Ben oui, vraiment. Puis tu sais, l'humain a une capacité d'adaptation qui est extraordinaire. Ça stimule la créativité, ça stimule, je te dirais, l'ingéniosité. Donc, je te dirais que ça, pour moi, ça amène du positif. Puis par rapport à la pandémie, je trouve ça un peu philosophique, si je veux dire, mais pour moi, c'est une belle grosse pratique générale qu'on a eue, globalement parlant, sur la planète, sur quelque chose de plus grave qui pourrait arriver. Tu sais, fais juste imaginer la pandémie si ça avait été les jeunes enfants qui auraient été attaqués. Si ça avait été une pandémie que dès que tu as le virus, c'est une personne sur deux qui en meurt, dès que tu l'as. Imagine comment ça aurait pu être très, très, très grave. Fait que là, je pense que d'un point de vue société, ben, beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de mécanismes de biosécurité vont changer, puis tout ça. Puis espérons pour le mieux.
Puis s'il y a des gens qui pensent que hey, c'est hypothétique, puis ça fait peur, une personne sur deux, sachez que l'Ebola, c'est pas loin de 50%. Puis ça a déjà touché l'Afrique du Nord, tout ça. Fait que c'est pas juste des inventions. On le souhaite pas, mais si jamais ça arrive, ça existe déjà sur la planète, effectivement qu'on sera mieux équipé. Charles, tu veux rester collé un peu sur l'actualité. Il y a des événements, il y en a même un que tu as partagé sur Facebook, qui sont arrivés dans ta vie, que ça nous ramène un peu à ce qui se passe aux États-Unis actuellement. Raconte-moi.
Ben oui, écoute, rapidement, écoute, le post que j'ai fait, c'est une situation en fin de semaine au IGA où quelqu'un suggérait fortement à l'employé d'IGA d'ajouter dans le processus de contrôle à l'entrée, de pas laisser rentrer quelqu'un qui parle français. Je te dirais que ça m'a mis tellement en colère, puis je reste très poli, là on est à la radio, puis évidemment, j'ai parlé à la personne en question pour dire, voyons, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Tu peux pas dire ça 365 jours par année, tu peux encore moins le dire aujourd'hui, avec les événements qu'on connaît reliés au racisme, évidemment, puis tout ça, puis tu sais, tout ça m'a amené d'un genre de réflexion.
Comment la personne a réagi? Je voudrais savoir un peu. Excuse-moi, Charles, parce que tout le monde écoute ça, là. Des fois, on est témoin d'événements racistes ou autres, puis parfois, on a le courage d'intervenir, puis parfois, il y en a, juge pas, pour X raison, ils ferment le gueule. Qu'est-ce qui t'a incité, toi, dans la file au IGA, quand t'as vu ce commentaire-là, à dire, OK, moi, je parle, je vais essayer, puis je veux savoir, ça a été quoi la réaction de la personne? Il t'a-tu dit, ouais, il s'est-tu excusé ou au contraire, il t'a envoyé promener?
Oh, au contraire, d'abord, qu'est-ce qui m'a incité? Un réflexe, tout simplement, juste de voir quelque chose qui n'a aucun bon sens. Tu sais, ce que je veux dire, on est en 2020, de dire ça, puis il était très sérieux, il disait pas ça en riant, ah, ah, ah. Il dit non, pour vrai, vous devriez dire aux gens, qui ne parle anglais, parce qu'évidemment, le client avant nous parlait anglais, donc le commis était obligé de sortir son anglais du dimanche, entre guillemets, pour lui dire les consignes avant de rentrer dans l'épicerie en question. Puis la réponse de la personne était juste de dire, ben écoute, si tu m'écoutais pas, puis tu te mêlais de tes affaires, t'aurais pas entendu ce que je dis. Fait que là, j'ai comme fait, aïe, je peux pas croire.
Ça donne rien de leur parler, des fois. Des fois, c'est ça qui m'agace. Je sais qu'il faut parler. T'as bien fait d'intervenir, Charles, parce que c'est pas correct, mais... Tu sais, quand t'es raciste comme ça, hey, tu parles pas français, tu devrais pas rentrer à l'épicerie. Ça donne-tu de quoi?
Mais non. Puis tu sais, la personne, je dis, écoute, c'est totalement raciste. Puis je dis, suivez-vous l'actualité, monsieur, ça n'a aucun bon sens. Puis sa réponse était, c'est pas raciste du tout. C'est un enjeu de langue ici. Et j'ai comme ça, non, pour moi, c'est raciste au sens large. Puis tu sais, tout ça prend des proportions qui ont juste pas de bon sens. Je te dirais que la seule bonne nouvelle reliée à ça, c'est qu'on a enfin parlé d'autre chose que de la COVID dans les médias. Et puis, bonne nouvelle, on s'entend, je colore et j'imagine la chose. Dites-moi pas que c'est une bonne nouvelle, pas du tout.
Non, on l'a pas souhaité, mais c'est ça. Ouais.
C'est horrible tout ça, c'est horrible. Puis c'est horrible parce que ça a des conséquences directes, mais ça a aussi des conséquences indirectes. Puis ce que j'asais à Jean-Simon Ordonne cette semaine, c'est pour moi, toutes les conséquences indirectes ou les dommages collatéraux, c'est la perception des policiers dans tout ça. Puis, ce que je disais, c'est que moi, j'ai vécu un événement à un moment donné chez nous, c'est drôle, mais à un moment donné, je suis revenu chez nous après une soirée, puis je suis arrivé dans mon entrée avec mon véhicule, puis il y avait quelqu'un dans ma maison. OK? Oh. Fait que là, j'ai dit, mon Dieu, il y a un voleur, puis tout ça. Fait que là, je me cache, je recule, j'ai dit, mon Dieu, je rentre pas, tu sais, il est peut-être armé, puis tout ça. Puis c'était à Lévis, là, OK? C'était pas dans le temps de Toronto. Finalement, je me rends compte que le gars, il est pas en train de voler, mais qu'il a ma robe de chambre sur le dos, puis qu'il a de l'air en bedaine en dessous, puis qu'il a de l'air... Là, il s'assit dans mon divan, puis il a de l'air d'écouter la télé. Fait que là, vraiment, situation bizarre. Hein, c'est ouais. Fait que là, évidemment,
je pense que c'est encore pire. Je pense que c'est encore pire que si tu l'avais vu avec, je sais pas moi, avec une télé, là, tu sais, parce que ça, on est habitué à ça. Le voleur, il veut une télé.
Exactement ça.
Ouais.
Puis, fait que bref, évidemment, t'appelles la police. La police débarque à 8 comme d'un film armé sur le gars, puis tout ça. Puis, pour faire une histoire courte, ben, le gars, finalement, il était un peu d'un vapeur, puis il disait que c'était chez eux. Puis, il s'était coupé les cheveux avec mon clipper. Puis, ça faisait 2-3 heures qu'il était là. Puis, il avait nourri mon chien, puis tout ça. Puis, il disait qu'il était chez eux, la police. Où je veux en venir, Sylvain, c'est que souvent, on a une perception de la police ou certains parents peuvent éduquer, entre guillemets, leurs enfants, pas nécessairement directement, mais avec des commentaires, des fois, bon, il m'a donné une étiquette, il m'a fait chier, excuse l'expression, il m'a écœuré, puis tout ça. Mais la police, tu réalises jamais vraiment à quoi elle sert jusqu'au jour où tu en as besoin. OK? Puis, tu sais, ce qu'on devrait montrer à nos enfants, c'est pas, regarde la police, elle donne des étiquettes, elle donne ci, c'est pas d'avoir peur de la police, mais la police, c'est lui qui t'appelle justement quand toi, t'as peur.
Ouais.
Puis ce geste-là, malheureusement, amène une certaine haine, amène une certaine des dommages collatéraux que pour moi l'image de la police dans tout ça est ternie évidemment. Pis mais ça l'amène beaucoup plus que ça.
T'as raison parce que évidemment là, on a toutes ces images là de racisme épouvantable, le meurtre de George Floyd. Pour ceux qui l'ont regardé, je vous l'ai dit hier là, je l'ai fait parce que je voulais vraiment savoir de quoi il s'agit pour pouvoir en parler. Mais c'est insoutenable, c'est brutal, c'est une exécution publique. Mais t'amènes une autre version, je sais que, regarde, il y a des gens qui nous écoutent actuellement à Québec, des gens des minorités qui sont victimes de racisme, on pense à vous, mais évidemment que les policiers qui ont commis ces gestes-là, je souhaite la peine la plus sévère possible, regarde, pas de pardon, mais être un policier aujourd'hui doit pas être évident, parce que ces gens-là, OK, ces policiers-là à Minneapolis ont sali l'uniforme, mais là, il y a un danger de généralisation, puis que les gens commencent à mettre tous les policiers dans le même paquet, malheureusement. Il est là, le danger. C'est à ça que tu fais référence.
Exact, puis c'est comme dans tout, c'est toujours une minorité d'une profession, d'un groupe, etc., qui font malheureusement mal paraître, puis aux yeux de beaucoup de monde, bien après, cette mauvaise publicité-là spin, dans les médias, on voit tout ça, puis tu sais, c'est pas nécessairement pour les gens qui sont capables de faire la différence, le point, c'est sur des fois les enfants, ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient, puis après, il n'y a rien. Regarde, Sylvain, lorsque tu vas pouvoir fréquenter plus d'enfants dans ta vie, dans ton salon, dans ta cour avec tes amis, puis tout ça, essaye de remarquer, pose des questions sur la police, puis tu vas te rendre compte à quel point certains enfants, des fois, ont une perception mauvaise. Puis moi, c'est ce qui m'inquiète le plus. Ouais. La police, il faut en avoir besoin une fois dans sa vie pour se rendre compte que c'est des gens qui sont là pour te protéger, puis c'est les autres que t'appelles quand t'as peur, puis tout ça. Puis moi, je te jure, cette journée-là, parce que moi, après, c'était pas juste ils l'ont arrêté, le gars. C'est OK, il va aller en psychiatrie, mais qu'il ressorte, là, il va-tu revenir chez nous?
Il va-tu se tromper encore?
Il va-tu contre moi? Il va-tu se tromper? Qu'est-ce qui va arriver? Quand les polices sont arrivées, il s'est défendu avec un bat de baseball. Hein? Ça avait été moi qui étais rentré. Il m'aurais-tu offert une demi-bière qui était dans mon frigo ou il aurait sorti un couteau? Fait que, tu sais, c'est pas juste un événement ponctuel. Fait que, tout de suite après, le support, le soutien de ces gens-là, moi, personnellement, j'avais pas du tout une mauvaise opinion de la police. Mais je te jure que mon opinion, elle a changé encore plus. Puis j'ai comme fait, aïe, aïe, ces gens-là ont un travail tellement important qu'on se rend peut-être même pas à quel point. Puis le jour où t'en as vraiment besoin d'eux, tu réalises vraiment à quel point c'est un travail spécial puis important.
Ce que tu dis, Charles, là, pis ça, sur les jeunes, la vision de la police, tu le vois tellement sur les médias sociaux. Il y a une page pas toute policiers zélés. Des fois, on passe des extraits de vidéos là, de monde qui filme les policiers en les insultant, en traitant tous les noms, tout ça. Là. C'est vrai que ça part jeune. Puis tu sais, quand je repense à mon enfance, là, souvent, quand on était jeune, justement, on appelait les policiers les cochons, nanana, sans réfléchir. T'étais au primaire, puis t'entends ça quelque part, puis t'as aucune idée de quoi tu parles, mais c'est des idées qui restent ancrées très, très longtemps dans ton cerveau quand t'as commencé jeune à penser ça.
Il y a des choses que, évidemment, un jeune, en partant, ça va parfois protester contre l'autorité, qu'elle soit parentale, professeur ou policier. Ça reste, je pense, un développement normal. Mais comme Charles le disait, là, ces temps-ci, pensez aux enfants, là, c'est vrai qu'ils entendent tout parler de ça, la TV, les médias sociaux, c'est partout. Donc, les enfants, ils ont vu les images, ils ont vu les quatre policiers, les racistes de Minneapolis, tuer George Floyd. Ça va être bien important pour eux de faire la distinction. Puis moi, je compte sur les parents, là. Je sais que vous êtes capable de faire la job comme faut, mais dans la société, que c'est pas la police. C'est pas la police avec un grand P là, qui a fait ça. Ce sont des policiers racistes. Malheureusement, il y en a trop. Mais il faut pas que ça jette, le discrédit sur l'ensemble du corps de police. Parce que tu as raison, Charles, ils sont de notre bord. La journée que ça va mal, ils travaillent pour nous autres et non pas contre la population. Ils sont là pour nous protéger. Puis j'imagine que quand tu pognes le téléphone puis que tu fais le 911 dans les circonstances que tu nous as contées, que quand ils arrivent, un peu comme les médecins, on est bien bon, on chiale en masse ces temps-ci en raison des salaires contre les médecins. Mais moi, ça m'est arrivé, je sais pas si vous l'avez déjà vécu, d'être dans un endroit public où quelqu'un s'effondre puis tu sais pas quoi faire. Quand tu poses la question, y a-tu un médecin autour, puis y en a un qui se lève, puis y arrive, là. Mm-hmm. Oh! C'est le bon Dieu. Hey, t'es-tu content, là? T'es soulagé, t'es enfin. Ah ouais, y a un médecin à côté. Ben, la police, c'est un peu pareil.
C'est exactement ça. Mais malheureusement, l'individu qui avait en ligne d'épicerie avec moi, qui a formulé ce genre de commentaire-là, quel genre de commentaire il peut formuler en face d'un enfant? C'est ça qui est inquiétant. Puis oui, il y a des policiers zélés aussi, comme il y a des serveurs de restaurants zélés, comme il y a des propriétaires d'entreprises zélés, comme il y a une portion mathématique de chaque job, chaque emploi. Mais tu sais, ça soulève un problème. Puis moi, ces événements-là me font peur, oui, pour la question raciale, évidemment, là, mais aussi pour les dommages collatéraux que ça peut créer. Comme tu disais gentiment, une gang d'enfants qui se promènent en bicycle, puis ils disent « Ah, les cochons, les... » Tu sais, c'est ce que je veux dire. C'est eux autres que t'es supposé d'appeler s'il y a un voleur chez vous, là. Fait que c'est ça qui est inquiétant, selon moi.
Charles Auger, merci beaucoup de nous avoir parlé. On se reparle bientôt.
Yes,
salut bien. Charles Auger, un des propriétaires de Chocolat Favori, mais comme je vous dis, on parle pas de business, d'affaires. C'est des gens qui sont intéressants. On s'est entouré, bon, je veux le faire encore de plus en plus dans Bouchard en parle, de gens qui ont des choses intéressantes, qui ont un regard sur l'actualité intéressant. Puis ça, ben, en passant, quelle histoire qu'il a vécu Charles. Pire qu'un voleur, vous êtes tous d'accord avec moi, là, se faire voler, mais un fou de même chez vous, là, qui...
Comment tu réagirais?
Ah, il avait sa robe de chambre. Il s'est coupé les cheveux avec son clipper.
On aurait dû demander à Charles. Moi, je suis convaincue qu'il a brûlé, sa robe de chambre. Il a changé de clipper. Tu veux pas reprendre ça par la suite. C'est marqué après ça. Là, tu rentres chez vous et t'es plus chez vous.
Mais il nous comptait ça pour dire que quand il pogne le téléphone et il fait 911, il est-tu content de voir arriver la police? Il est-tu heureux? Comme quand on appelle le médecin. Faut avoir un certain respect pour ça. Mais moi, j'ai peur que ça va se perdre un peu. Je trouve que, évidemment, c'est d'abord et avant tout de la faute des policiers racistes de Minneapolis, là. Mais l'image des policiers éternis, ces policiers-là je vous répète, on les prend pas en pitié. Les autres, ils peuvent bien aller en prison jusqu'à la fin de le temps. J'ai zéro pitié. Mais moi, je pense à toutes les autres. Là. Ceux qui nous écoutent aujourd'hui dans leur auto-patrouille, ils ont à faire une intervention. Il y a du monde autour. Ça doit pas être facile.
Mais il y a quand même une mentalité qui, comme tu l'as dit, oui, c'est un petit peu ternant en ce moment, mais reste que dépendamment du média social que tu consultes, il y a beaucoup de vidéos en ce moment où on voit des policiers qui vont, par exemple, plutôt que d'empêcher une marche pacifique, les policiers vont dire aux gens qui sont réunis, suivez-nous, on veut pas être contre vous, on veut vous aider. Il y a une vidéo qui est très virale d'un shérif en ce moment aux États-Unis qui est en train de circuler. Ouais. D'autres vidéos, on voit les policiers mettre le genou par terre. En même temps, ça s'est passé du côté de New York. Ouais. Si c'était pas, c'est hier que ça s'est passé, Sylvain, ou avant-hier. Mais il y a beaucoup de policiers qui, malheureusement, sont dans le siège de « je n'ai pas le choix d'être là », même si il y en a peut-être qui auraient aimé ça, être avec les gens qui font les marches pacifiques, mais ne peuvent pas être là. Il ne faut pas l'oublier, ça. Ils ont quand même un devoir à faire. Ils doivent quand même faire leur travail, mais ça n'empêche pas qu'ils sont de notre côté pour la grande majorité. Il ne faut pas l'oublier, ça aussi.
Mais soyez conscients, là, c'était pas dans les propos de Charles, mais je veux juste rajouter là, je veux juste rajouter ça. Ça vient de moi, là. N'oubliez pas, la majorité du monde, là, c'est correct. Je pense pas qu'ils tombent dans le piège de la généralisation puis de penser que tous les policiers font des affaires comme ça, des arrestations épouvantables, des exécutions, des assassinats, là. Mais ce qui aide pas, d'abord, les médias aident pas, parce que bon, on passe souvent certaines images spectaculaires en boucle. Mais ce qui aide pas, c'est qu'il y a des groupes d'activistes que c'est exactement leur mission et leur combat.
Exact.
De faire passer la police pour des criminels, puis la brutalité, puis ils provoquent constamment les petits groupes à Montréal, là, les casseurs, les cagoulés, les masqués qu'on voit une fois par année dans la rue, là, à essayer de provoquer la police. Ben, pour eux autres, là, un événement comme ça, là, ben, ça leur donne des munitions dans leur combat. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont contents de ça. J'espère qu'ils ne sont pas fous et caves à ce point-là. Mais pour généraliser, puis jeter le blâme puis le discrédit sur toute la police, dans leur agenda à ces groupes d'anarchistes-là extrêmes, ben, ça fait leur affaire. Puis on l'a vu là, dans certaines manifestations. Je répète, la majorité des gens étaient corrects. Ils manifestaient contre le racisme, contre des policiers racistes. Mais t'en as d'autres qui ont voulu étendre ça là, à l'ensemble de la police, là. Tu sais, il était quatre, là. Mm-hmm. C'est quatre de trop. C'est épouvantable qu'il soit quatre. J'ai tout dit ça hier, je comprends pas. Les autres, c'est des complices. Ils devraient être arrêtés. Mais tu sais, c'était pas la police. C'était pas le corps de police, même au complet, de Minneapolis qui était là, dans la rue, là. C'est à ça, je pense, qu'il faut faire attention.
Est-ce qu'on va voir maintenant des caméras sur les policiers? Vous rappelez-vous, il y avait eu un projet pilote, si je me trompe pas, c'était quoi? C'est à Montréal, là,
où
il y avait
la Sûreté du Québec, ouais, aussi, je pense. Mais ils veulent pas le faire, finalement, là. Il y a sorti un article, là, je retrouve, là. Ouais. Mais ils veulent pas le faire, là, les caméras, là. Attends un petit peu. J'ai lu ça tantôt, mais je l'ai lu vite.
Me semble dans les dernières.
On a peur de ça ici.
Ils réclament encore. Ben, tu vois qu'au SPVM, là, il y a trois. Ça, c'est dans le journal Métro. Ça vient de sortir à 4 heures. Il y a trois arrondissements montréalais qui viennent d'adopter à l'unanimité hier une motion de l'opposition officielle demandant que tous les policiers de Montréal disposent de caméras portatives. Donc, ils sont en train de travailler là-dessus. Là. Mais pour lutter Québec, contre le profilage, pour lutter contre les épais aussi.
Je sais pas de quoi ce qu'on a peur, mais à tout bout de champ, les caméras. J'ai vu un reportage, on s'en va ailleurs un peu, là, mais 30 secondes. Là. En Corée du Sud, là, les agents de sécurité se promènent avec des lunettes de Superman. C'est comme ça que le reportage le présentait. Là, tu dis, bon, c'est exagéré, mais c'est quasiment des lunettes de Superman.
Des lunettes caméra, puis toute la quête, là?
C'est des lunettes munies de petites caméras thermiques. L'agent de sécurité, quand il met ses lunettes, il voit exactement la température de tout le monde autour.
Ah ouais.
Il voit à l'intérieur des corps. C'est capoté, là. Il voit à l'intérieur des corps. Fait que là, il peut voir, OK, ça c'est beau, 35, je sais pas trop, 36, moi, je sais pas.
Les températures.
Il y avait différents chiffres. C'est quoi, non, la température normale, là?
C'est environ 36,5.
37,5.
Je pensais que c'était 36,5.
Mais mettons qu'il voit un 39 ou un 40. Il s'avance, puis monsieur ou madame, qu'est-ce que vous faites là? Vous faites la forte température, restez chez vous, puis il est équipé de ça, puis il voit assez loin, là. Puis là, il interrogeait dans le reportage des gens, des Sud-Coréens, des Sud-Coréennes, puis tout le monde trouvait ça correct. Ah, ben oui, c'est correct. Comme ça, si les gens sont malades puis ils sortent, ils vont se faire avertir de rester chez eux. Oui, ils devront se justifier pour protéger l'ensemble de la population. Moi, j'ai rien caché. Je suis en forme. Je fais pas de température. Ici, là, imaginez ici s'il y avait ça, là.
Et oublie ça, ça passe pas socialement.
Ouais, mais là, préparez-vous, là. Parce que moi, je pense que dans certains restaurants, il va y avoir ça. Pour vous donner, je peux vous dire que c'est à l'étude.
Ah.
Vous l'annoncez hier en primeur, Normand Laprise, Daniel Vézina, les restaurants, ça s'en vient dans deux semaines, ça va, puis on a jasé un peu. Parmi, là, je veux pas, ça, là, c'est étudié, mais c'est pas sûr, la possibilité d'avoir des caméras thermiques à l'entrée. qu'ils vont prendre ta ils ont ta température, puis si tu fais de la fièvre, tu ne rentres pas.
C'est une très bonne idée, honnêtement.
Mais c'est déjà annoncé dans Docteur de métier.
Ça, moi.
Mon ostéopathe, la prochaine fois que je vais aller la voir, c'est je dois attendre dans ma voiture, c'est elle qui doit venir me chercher, puis je vais baisser ma fenêtre quand elle va être rendue à mon véhicule, puis à l'aide d'un thermomètre, comme à l'épicerie, là, quand on veut voir la température sans toucher, là, ben, elle va faire ça dans ma voiture. Fait que ça commence déjà à arriver. Là on parle de restaurant, mais
intrusion dans la vie privée. Mon, mais vie privée, t'as peu, là, t'es pas chez vous, on débarque pas chez vous. Tu veux aller d'un resto ou tu veux te promener, aller magasiner, on veut savoir si tu fais de la fièvre. Bon, ben, si tu fais de la fièvre, on t'enverra pas en prison. Non. On va te dire, là, il va falloir intelligemment dire aux gens, vous n'avez pas d'affaires ici. Vous avez peut-être la COVID-19, c'est un des symptômes, restez chez vous, ça s'arrête là. Ouais. Ça va permettre à plein de monde d'aller dans un restaurant plus vite, plus tôt, puis d'être... C'est pour ça que je suis pas contre ça, parce qu'on veut être déconfiné, on veut retourner dans un resto. Fait comment éliminer les gens qui peuvent être dangereux, puis laisser les autres vivre en paix? Caméra thermique. Hey, t'as dit, il montrait les images, c'est vraiment capoté, là, en Corée du Sud, puis apparemment que c'est scientifique, puis ça marche.
Au 25 de 2-6, Sylvain, il y a quelqu'un qui nous écrit, tu sais, anyway, quand tu fais de la fièvre, tu files tellement comme de la merde, t'as pas envie de sortir de ton lit.
Ah, il y en a sont assez calmes pour le faire.
Il y en a qui, là, c'est ça.
Marie, si la COVID-19 s'est répandue, fais confiance aux caves.
Oh,
regarde,
oui.
Ils sont capables, on a vu du monde tousser, on a vu du monde un peu partout qui ont éternué. Il y a dû en avoir au début qui ont fait des tournées.
C'est sûr. Il y a une madame qui s'est mouchée sur une rampe d'escalier, on vous le rappelle, la morveuse de je sais plus trop où, là.
Non, puis dans la presse a fait un super job en fin de semaine, je sais pas si vous avez lu, sur l'épidémie de COVID-19 au Québec.
Très fort.
Là, si vous voulez savoir ce qui s'est passé, là, c'est long. Ils ont été à peu près, je pense, 10 journalistes à travailler là-dessus. Ils ont parlé à une centaine de personnes. D'après moi, j'exagère pas. Là, tu sais exactement ce qui s'est passé au niveau de la contagion. Et il y a des gens, c'est des gens qui sont arrivés d'ailleurs, mais il y a des gens qui sont arrivés d'ailleurs malades, ils ont fait la tournée des bars à Montréal.
Oui. Mm-hmm.
J'ai lu ça à un moment donné. La personne arrivait de Londres, malade, symptômes, faites la tournée des bars. Ça, ils ont été catastrophés. Là. Bon, lui, ça il a dû répandre le virus là, un peu partout. Fait que les caméras thermiques peuvent empêcher, peut-être, garde, si on avait eu ça, de dire à la personne, toi, tu rentres pas ici. Qu'est-ce que vous en pensez? 25-226, est-ce que c'est trop intrusif?
Mais il y a déjà des gens qui nous répondent au 25-226 que c'est déjà en vigueur dans le travail. Là. Ça l'est déjà.
Ce sont des lieux de travail, mais pour aller au resto ou dans un endroit public, moi, j'en ai pas vu, là.
C'est vrai.
Ouais, la crainte de certaines personnes, là, je me fais un peu l'avocat du diable parce que je trouve pas que c'est un argument qui est complètement cave, là. C'est qu'en ouvrant la porte à une certaine forme de biométrie puis de lecture de certaines données, ben là, après ça, une fois que la porte est entrouverte, ben, on va essayer de l'ouvrir encore plus puis de prendre encore plus de données puis de suivre encore plus les citoyens.
Cet argument-là, ils nous l'ont servi quand ils ont commencé à avoir des caméras de sécurité dans les rues, là. Ça commence dans les rues, ça va finir dans les chambres à coucher. Non, il n'y en a pas. Non, non, c'est pas aller... Non, c'est pas toujours ça. Non, ça commence de même, puis ça va finir de même. Non, c'est pas parce que là, en temps de pandémie, on prend la température de certaines personnes que ça va être rendu obligatoire avant d'aller tout le temps. Je pense pas, là. Voyons donc. Faut un peu se faire confiance.